tous regarder avec des grands yeux, mais tu vas moins bien gagner ta vie. Tu pars du cœur battant du monde qui est Paris. Tant qu'on n'est pas trois fois mieux que les bonhommes, on ne se considère pas légitime. Donc je me dis, ouais, je vais être le modèle. Et puis je me dis, je ne peux pas critiquer dans ma cuisine en écoutant France Inter depuis 20 ans toutes ces personnes politiques qui sont là, alors que là, moi, j'ai une chance d'y aller. Je pourrais plus jamais critiquer si j'y vais pas. Ça coûte, bien sûr, mais voilà, c'est le prix à payer pour aussi espérer un peu de changement. Donc je me suis dit, voilà, tout ça se mélange dans ma tête à ce moment-là. Et je me dis, pourquoi pas moi ? Dû arrêter ma maison d'hôte, j'y serais pas allée. La première fois que je donne un tract à un marché de ma vie, j'imagine pas une seconde que je vais être députée à ce moment-là. Sinon, le tract, je le donne en tremblant. Parce que progressivement, faut se préparer à porter l'habit. Et l'habit, de toute façon, pour quiconque, je crois qu'il est trop large. Il y a quelques nuits blanches quand même au départ de dire « Ouf, le suffrage universel vient de me mettre là, donc je suis députée. » Ça met une saine pression. Et si tu y penses au moment où tu donnes ton premier tract, tu ne vas pas tracter ce matin-là. On est tous à la hauteur de nos ambitions si on se donne les moyens de les atteindre. Donc il faut foncer.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. La vocation de « Pourquoi pas moi ?» est de vous inviter à écouter votre petite voix grâce au parcours inspirant d'hommes et de femmes. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais ma petite voix m'a donné l'envie de faire quelque chose de spécial, car le 8 mars, ça sera la journée de la femme. L'idée n'est pas d'être féministe, mais plutôt de mettre en lumière des femmes au parcours extraordinaire, qui se sont dit elles aussi « pourquoi pas moi ?» et qui sont passées à l'action. La personne qui me reçoit aujourd'hui dans son bureau est une personne que j'ai croisée deux fois précédemment dans ma vie professionnelle. Nous nous connaissions peu, mais quand je lui ai proposé de participer à « pourquoi pas moi ?», alors que le podcast n'était pas encore lancé, elle m'a dit un grand oui. Caroline est une femme hors norme qui a su bousculer son quotidien pour faire de grandes choses. Après une maîtrise de droit et un DESS en gestion d'entreprise, elle passe une dizaine d'années à Paris dans l'univers du recrutement. Avec son mari, ils décident de quitter cette vie avec leurs jeunes jumeaux pour monter une chambre d'hôte dans la région lyonnaise. Deux événements ont déclenché en Caroline l'envie de s'engager et de poser sa candidature pour les élections législatives. Caroline est aujourd'hui à la tête d'une chambre d'hôte, maman de deux enfants et députée de la 8e circonscription de l'Isère. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Caroline Abadie. Bonjour Caroline.
Bonjour Charlotte.
Avant qu'on commence, je te propose de nous présenter l'objet que tu as ramené, s'il te plaît.
Alors, c'est ma montre. C'est une montre qui est trop grosse pour mon poignet, qui ressort mal sur les photos et les vidéos, mais j'y tiens beaucoup parce que je l'ai achetée sur un coup de tête pour faire de la compétition sportive. Je courais beaucoup à l'époque.
Et c'était quand ?
C'était avant mon mandat, donc c'était aux alentours de 2016, et je devais faire un raid à Amazon avec une amie dont on parlera certainement, et je l'ai acheté en me disant bah, comme ça je vais mesurer mes performances, parce que j'aime bien tout mesurer. Si je marche, j'aime savoir si j'ai marché vite ou pas vite, et je la garde même si j'ai plus le temps de courir et très très peu le temps de marcher, parce que ça me rappelle qu'un jour j'ai fait du sport et qu'un jour j'en referai.
Là tu fais plus du tout sport.
Je me force un peu, mais ouais. C'est grâce à la montre, en fait, je crois.
D'accord. C'est ton soutien.
C'est mon soutien, c'est mon coach.
Avant qu'on parle de ta vie de maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la petite Caroline ? Où est-ce que tu es née ? Où est-ce que tu as grandi ?
Alors, ça nous ramène à quelques décennies. Je suis née en région grenobloise. Mes parents habitaient d'abord dans un immeuble à Échirolles, et puis ensuite, mais j'ai pas de souvenir de cette période-là, et puis j'ai vécu dans des petits villages en région grenobloise. Des petits villages bien sympas, et voilà, une petite vie de campagne entre campagne et ville, parce que la proximité de Grenoble faisait qu'on n'était pas dans un milieu rural, ouais. mais pouvoir sortir l'après-midi toute seule dans le lotissement pendant des heures sans qu'il y ait aucun parent qui nous surveille, ouais. Et en toute sécurité avec nos vélos, nos skateboards, etc.
Ça fait rêver plus d'une personne, j'imagine.
Ouais. C'était il y a 40 ans, donc le monde a un peu changé.
Ouais. Et ils faisaient quoi tes parents comme travail ?
Alors ma maman était infirmière et mon papa était commercial, donc il faisait beaucoup de routes.
D'accord, donc peu présent à la maison ?
Peu présent à la maison.
Ok, t'as des frères et sœurs ?
Un grand frère.
Ouais. Il fait quoi lui aujourd'hui ?
Alors mon frère, il faudrait que tu l'interviewes un jour.
Avec plaisir.
Il était ingénieur informaticien et puis un jour il s'est dit qu'il fallait qu'il réalise son rêve de gamin.
Ouais.
Et maintenant il est copilote d'avion.
Génial.
Donc il a fait la reconversion quand il avait à peu près 30 et quelques années. Ouais. Il a galéré une grosse dizaine d'années. Maintenant, il a enfin un CDI dans une compagnie digne de ce nom.
Super. On s'en reparlera.
Volontiers.
Et toi, c'était quoi tes rêves d'enfant ?
Écrivain, avocat, juge. Ça tournait tout le temps autour de ça. Ça a évolué dans ce sens-là, à peu près. Et puis... je ne les ai pas accomplis, mais il n'est pas trop tard.
Ouais, et puis après, potentiellement, dans ta vie d'aujourd'hui, il y a des petites choses que tu peux tirer peut-être qui se raccordent à ça ou pas du tout.
Ouais, parce que en fait, le rêve d'être juge ou avocat, je ne l'ai pas accompli, mais le hasard m'a tiré au sort comme jurée d'assises.
Ouais.
Et c'est ce passage dans une cour d'assises en tant que jurée qui m'a bouleversée, qui m'a fait... prendre ce dernier virage.
Ouais. C'était quand ? Quand est-ce que tu as été jurée d'assises ?
Dans 2016, j'ai reçu le courrier de la cour d'appel de Grenoble à la maison et j'ai compris que j'étais tirée au sort.
Parce que ça peut être n'importe qui est sur les listes électorales peut être tiré au sort, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. Et je l'espérais. Quand j'ai pas accompli mon rêve de juge et que j'ai pris une autre voie dans mes études, j'ai eu ce regret longtemps. J'admire vraiment leur profession et le rôle qu'ils accomplissent pour notre société. Et quand j'ai pas eu accompli ce rêve, je me suis dit, bon, avec un peu de chance, et j'en ai eu, tu seras tiré au sort. Reste bien inscrite sur les listes. D'ailleurs, vote au cas où ça aide. je me suis jamais abstenue dans cette idée-là. Et puis, un jour, il y a une main innocente qui m'a tirée au sort. Et on en a reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, puisque ça se fait au niveau des mairies. Et
d'accord.
Il y a une adjointe qui m'a dit, ouais, un jour, j'ai tiré ton nom au sort. Et j'ai dit, t'as changé ma vie.
Ouais. C'est fort, ouais. Et pourquoi ça t'a changé ta vie ?
J'ai eu le sentiment d'être enfermée dans un bocal pendant un mois. Où tu as toute la souffrance du monde qui se concentre, c'est très lourd, tu as peu d'espoir, c'est vraiment déprimant, enfin voilà, on en sort vraiment transformé. Et quand tu sors du bocal, tu fais bon, la société elle n'est pas aussi mauvaise que ça, pourtant elle produit ça, c'est elle qui produit cette souffrance, ce malheur des gens, parce que j'avais le sentiment que les gens qui étaient derrière le box des accusés, ok, ils avaient fait des mauvaises actions et ils en étaient totalement responsables et c'est eux qui ont fait les mauvais choix dans leur vie. Pour autant, ils avaient dans leur parcours des accidents, des problèmes, que la société leur avait mis ça sur leur route. Et je le redis, même si toutes les personnes qui ont vécu la même vie qu'eux ne terminent pas dans la délinquance ou la criminalité, pour autant, un gamin qui ne rencontre pas le déracinement, la pauvreté, l'absence du père dans sa vie, aura quand même statistiquement plus de chances de ne pas terminer en cour d'assises.
Ouais.
Donc, et il y a la souffrance aussi qu'ils ont fait subir aux familles et aux victimes. Là-dessus, il y a aussi beaucoup, beaucoup de souffrance. Et donc, je m'étais dit, bon, il faut faire quelque chose.
Ouais. Sachant qu'en plus, tu es une maman de deux garçons, donc ça a résonné encore plus dans ton cœur de maman.
Ouais, 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 on en a parlé avec des amis en disant, est-ce que nos enfants un jour peuvent se retrouver en cour d'assises ? Je dis, si on fait bien notre job, on aura moins statistiquement.
Ouais.
C'est pareil, tu peux pas tout maîtriser, mais statistiquement, c'est malheureusement le cas. Ça joue beaucoup.
Ouais. Et avant de devenir députée, tu avais déjà changé de vie ? Parce que donc t'as fait des études de droit. Donc quand même, tu t'étais dit, j'ai envie d'être dans la justice.
C'était mon envie première, et puis par manque de confiance en moi, je m'étais dit, oulala, ça va être très très dur. Pourtant, j'ai fait les 4 ans de droit, j'ai eu aucun problème. Les 4 ans, je les ai fait en 4 ans, donc il n'y avait rien qui n'aurait dû me faire abandonner. Je me suis dit, oh là là, c'est très compliqué d'être avocat, c'est très compliqué d'être magistrat, les concours sont compliqués. Et je ne suis même pas présentée au concours et j'ai dévié en me disant, bah, je vais aller travailler en entreprise. Et j'ai suivi.
T'as fait un master du coup en gestion d'entreprise.
Voilà, et donc je me suis retrouvée après sur le volet RH, le recrutement et aider les entreprises à recruter.
Et à ce moment-là, tu te disais, un jour je créerai mon entreprise, ou c'était plus parce que tu t'es dit, ça c'est la logique
J'avais la fibre. Ouais. Franchement, j'avais la fibre l'envie de créer, mais je m'étais pas projetée aussi loin que ça. Je m'étais dit bon, bah,
pourquoi pas un jour, mais
ouais, je le sentais, mais je savais pas quand.
Ouais. Et quand tu t'es dit je me sens pas capable de passer le barreau, il y a personne dans ton entourage qui t'a dit mais vas-y, t'en es capable?
Non.
Non.
Non, non, non. Et malheureusement, et puis, enfin, malheureusement, heureusement, de toute façon, faut être responsable de ses propres actions.
Ouais.
Ça s'est cumulé avec aussi une vie amoureuse à ce moment-là je m'étais dit, si mon chéri part, il était en train de partir de la région, il faut que je le suive. Donc, il faut que je sois mobile. Mm-hmm. Et le barreau, ça t'accroche. Et ouais. Les études longues, ça t'accroche. Mm-hmm. Et j'ai fait ce choix-là et j'ai quitté le copain. Quelques semaines après, donc c'était idiot, mais c'était...
C'est le destin.
Faut pas réfléchir. Enfin, c'est comme ça.
Donc, tu arrives dans le recrutement. Après, tu travailles aussi en tant que commercial et tu fais du marketing pour le recrutement.
Oui, voilà. J'aide les entreprises à recruter. C'est une grosse dizaine d'années où je suis tour à tour du côté du recruteur ou alors du côté de l'annonceur, c'est-à-dire celui qui passe... le média qui va être le support des annonces de ses clients, donc site internet de recrutement, et aussi agence, c'est-à-dire l'intermédiaire.
Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis j'arrête cette vie, parce que t'es partie avec ton mari, donc là tu vivais à Paris à cette époque-là.
Voilà, c'est ça.
T'es repartie dans la région grenobloise pour ouvrir une chambre d'hôte. Quel a été le déclic? Je me rappelle, donc nous on s'est connus chez Aden Classifieds, qui s'appelle maintenant le Figaro Classifieds. Ouais. Et j'avais entendu dire que t'étais partie monter une chambre d'hôte, et je me dis waouh, mais
ils
c'est génial.
Tous regardé avec des grands yeux. Et tu vas moins bien gagner ta vie. Tu pars du cœur battant du monde qui est Paris. C'était mon moteur, c'est de partir de Paris. Moi, j'ai vécu 10 ans à Paris, des très belles années, puisque c'est là où j'ai rencontré mon mari et j'ai eu mes enfants. Mais on revient à ce que, au tout début, c'est marrant, mais je reviens à ce modèle d'enfance que j'ai eu, de pouvoir sortir de la maison en vélo et aller me balader une heure ou deux avec des copains, puis revenir sans souci. Et en région parisienne, ça me semblait vraiment très très compliqué de pouvoir offrir ça à mes enfants. Quand j'ai rencontré mon mari, on n'avait pas encore nos enfants, j'ai dit bon, je veux bien, on sort ensemble, ok, mais faut que tu le saches, hein, on part de Paris un jour. Quoi.
C'est le deal.
C'est le deal.
Lui, il vient d'où?
Il est des Hautes-Pyrénées, et ça, quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il était à Paris, et on est resté 10 ans à Paris ensemble, et si on ne s'était pas rencontré, il y serait encore.
D'accord.
Ouais. Donc voilà, le moteur, c'était partir de Paris.
Ouais.
Et après, quand on a commencé à réfléchir au projet, donc en région lyonnaise, qui était le point d'atterrissage pour lui en termes de mutation, j'ai même pas cherché du boulot. J'ai cherché d'abord une maison, et puis quand j'ai vu les maisons que je regardais, j'ai su que j'avais un rêve qui était démarré depuis quelques années de monter une chambre. Enfin, je voyais des chambres d'hôtes. Quand je voyageais, je vais aller en chambre d'hôte. J'étais là, la vie rêvée de la chambre d'hôte. Mm-hmm. T'as une jolie maison, tu la décores bien, t'accueilles des gens adorables. Et tu fais des bons cookies. J'ai les meilleurs cookies de la région. Et donc, à force de voyager avec ce mode d'hébergement, je m'étais dit, tiens, ça serait chouette ça. Parce que j'ai toujours eu envie d'avoir une.
Donc, c'était pas le projet initial. Vous êtes dit, on veut quitter Paris.
Voilà.
Ton mari est muté.
Ouais.
Et toi, tu disais, bon, on verra bien ce que je ferai.
Et puis, quand j'ai commencé à chercher les annonces pour notre maison.
Ouais.
Au bout de 3, j'ai compris que de toute façon, la maison que je cherchais...
C'était une grande maison.
C'était une grande maison avec plein de chambres et le potentiel et l'histoire et l'architecture qui se prête à ce genre de lieu. Quoi.
Ils avaient quel âge, tes garçons? Parce que c'est des jumeaux. Fin.
Ouais, mes petits chats, ils avaient... quand on est parti de Paris, on a assez organisé, on avait visé l'entrée en maternelle.
D'accord.
On avait une super nounou à Paris, on ne voulait pas interrompre le contrat et on est allé jusqu'au bout. Et donc on est arrivé, ils avaient 2 ans 3 quarts.
Ouais. Ouais, donc quand même pas simple de se dire, tu arrives avec 2 enfants de 2 ans 3 quarts et tu crées un nouveau métier en fait.
Ouais, mais alors l'avantage de ce métier, c'est que j'ai pu bien savourer mes enfants. Hein. J'étais à la maison H24, 7 jours sur 7, sortie d'école, entre midi et 2 si je voulais, mercredi, on pouvait aller faire plein de trucs le mercredi ensemble.
Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'était une bonne manière de monter une entreprise en gardant quand même une qualité de vie et de famille hyper privilégiée.
Et ton mari, il s'est investi dans le projet aussi de la chambre d'hôte ? Ou c'était plus ton projet à toi ?
C'était mon projet, mais il ne se monte pas tout seul.
Ouais.
C'est un choix de vie qui impacte la famille, puisqu'on vit au milieu de nos hôtes. On est un peu astreint à certains horaires de travail. Enfin, c'était moi qui faisais le petit déjeuner, mais faut se lever, faut accueillir les clients. Ça sonne à toute heure de la journée, de la nuit. Le client qui arrive à 23h, tu l'entends. Les clients qui arrivent le week-end,
c'est le cœur du truc normalement.
Il a été moteur dans le sens où lui c'est le il aime la gestion de projet, c'est son métier et c'est sa seconde nature, c'est sa vraie
nature. Donc il est organisé aussi comme toi.
Ouais, pire encore. Ouais. Je ne suis pas encore arrivée à son niveau. Et donc il fallait son soutien et je l'ai eu inconditionnel dès le début.
Et ton entourage, tu disais donc, chez Aden, ils t'ont dit mais t'es folle. Et ton entourage proche, tes parents, ton frère ou ami?
Mes parents voyageaient aussi beaucoup en chambre d'hôte et je crois que notre passion de la chambre d'hôte était assez commune à ce moment-là. Donc ils avaient les yeux qui brillaient quand ils voyaient. Enfin, ils ont surtout vu les yeux qui brillaient quand ils ont vu qu'on y était arrivé, parce qu'il y a eu un moment où la phase travaux, la première fois que j'ai visité ma maison, c'était avec mon père, parce que c'est donc pas très loin de chez eux aussi. J'ai senti l'anxiété. Hein. Ouh là là, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, et il s'est vu tout de suite en bleu de travail avec sa truelle et son rouleau, et il s'est dit qu'il allait y passer beaucoup de week-ends. Il en a passé quelques-uns, mais c'est pas lui qui a le plus bossé. Donc, il a vraiment pu faire ça à la carte, et on n'avait pas du tout l'intention d'épuiser nos parents qui étaient tout jeune retraité dans un projet pharaonique. Ouais. Donc on l'a fait par étapes.
Du coup, c'était un gros investissement financier d'acheter la maison ?
Eh bien, pour des gens qui ont vécu 10 ans à Paris, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas mis plus que si on était dans le 10e arrondissement, dans 50 mètres carrés, ce qui était quand même un bon investissement. Pour la région, c'est une grosse maison.
Ouais. D'accord. Donc là, vous vous lancez dans la chambre d'hôte, ça se passe bien ? Vous êtes épanouie ?
Ouais. On 10 ans de commercial dans le milieu du recrutement, 3 compliments, 3 merci. Là, 3 jours, 25 merci, 25 compliments. On a des clients qui sont tout de suite satisfaits et qui nous rendent tout de suite on est dans le concret. Tu prépares un petit déjeuner, tu fais un bon café, t'as mis une bonne confiture. Il y a un retour au concret qui était important après avoir fait 10 ans de recrutement sur Internet qui est... pour le coup, tout sauf tangible.
Ouais.
Et donc, la satisfaction client, elle est tangible aussi. Et c'est un gros retour très épanouissant. Ouais.
Et dans ta, entre guillemets, si on peut dire, vocation, il y avait un sens avec le... Dans tes années lycée, j'ai lu que tu avais suivi des jeunes en difficulté et que ça t'avait impacté très tôt. Enfin, t'étais au lycée, je crois, du coup.
C'était au lycée, c'était l'association, je crois qu'elle s'appelait UNESCO, pour aller faire du soutien scolaire dans des classes où les gamins étaient tout jeunes immigrés et dont les parents n'étaient pas francophones forcément et qui avaient des difficultés scolaires. Et avec une amie, on s'était mis dans cette association et une fois par semaine, on allait... dans le quartier le plus défavorisé de Grenoble. Et on allait traverser le quartier, on arrivait à l'école et on retrouvait nos petits bouts de choux là qui étaient trop contents de nous voir et on était trop contents de les voir. Et on avait une relation super avec eux et on les aidait à faire leurs devoirs une fois par semaine. Ouais, c'est chouette. Ça, je le retrouve... c'est quelque chose qui m'a marquée après l'expérience de juré d'assises parce que justement, je me suis dit, bon, effectivement... dans Derrière le Box, il y avait des hommes qui, dont on avait vu les difficultés scolaires à 6 ans parce que déracinés pour la plupart, alors avec des premières, deuxième génération d'immigration, mais avec des gamins qui n'avaient pas forcément suffisamment de soutien à la maison et qui auraient certainement eu besoin de soutien scolaire. Et je me suis dit, bon, il eût fallu, après cette expérience de jurée d'assises, que je me remette dans le soutien scolaire. Mais j'avais déjà du mal avec les devoirs de mes gosses, parce qu'ils avaient 6 ans à ce moment-là, 6 ou 7 ans. Je m'étais dit, bah déjà, occupe-toi bien de tes enfants, puis on verra pour ceux des autres. Ouais. Mais j'avais envie de refaire ça, mais j'avais plus j'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'avais pas assez de patience ni d'abnégation pour aller faire du soutien scolaire pour un gosse, parce que si tu le fais, tu peux faire qu'un seul gosse ou deux dans la semaine. Ça me donnait l'impression de vider la mère à la petite cuillère.
Ouais.
Et les bénévoles d'associations sont des mines d'abnégation, parce qu'il en faut beaucoup pour dire, bon, ben, c'est pas grave, il faut vider la mère, on y va. Ouais. Je prends ma petite cuillère. Et j'ai eu le sentiment que j'avais pas cette patience-là et qu'il fallait que je trouve quelque chose de qui puisse changer les choses plus fort.
Ouais. Donc là, c'est l'appel d'Emmanuel Macron en janvier 2017.
C'est ça. Je vois sa vidéo sur une page Facebook d'un ami. J'y passe ma soirée. La soirée dessus, je fais purée, mais il a raison. Si les femmes vont pas en politique, on va encore se retrouver avec une Assemblée nationale masculine. Et si elles n'y vont pas, et si je n'y vais pas, je ne vais pas pouvoir leur reprocher de ne pas y aller, puisque moi-même, je ne fais pas une forme de sacrifice quand même, de renoncement en tout cas à ma qualité de vie et familiale que j'avais pourtant mis du temps à construire. Et le lendemain matin, je vois la femme de cette amie celle avec qui je courais et que je faisais mes compétitions sportives, et je lui dis, j'ai passé une nuit blanche dessus. Et elle me répond, fonce, on verra après. C'est notre grande phrase. Donc, j'ai foncé, puis j'ai vu après.
Donc là, tu te dis, OK, tu passes ta nuit blanche, t'en parles avec ton mari le lendemain matin.
Ouais.
Il réagit comment ?
On passe une semaine dessus. J'ai quand même réfléchi 2 secondes. J'ai passé une semaine dessus avec mon mari. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que j'ai les capacités d'y aller ? Parce que, bon, on a quand même... tellement d'énarques dans notre société que la petite provinciale avec son bac plus 4, mais que j'estimais pas beaucoup, comment je vais être utile en fait, comment je vais pouvoir être utile à tout ça. Il m'a dit, t'es honnête, t'as pas de moins de capacité, vas-y, point barre. Pas besoin d'y réfléchir beaucoup plus. J'ai quand même, il y a quelques soirées à Paris dans le Lot, et ouais. On gérera.
Et tes enfants, donc tu as commencé à leur en parler à quel moment ?
Pendant la campagne, je pense, pendant la campagne présidentielle, ils me voyaient aller tracter, aller sur les marchés, aller boiter, comme on dit dans notre jargon de militants. Et puis, ils ont, comme à cet âge-là, c'est des éponges, ils ont envie d'aller tracter avec moi. Et donc, non, pas tracter, je ne les ai pas emmenés tracter, bien sûr, je les ai emmenés boiter avec moi.
C'est quoi la différence entre tracter et boiter ?
Tracter, tu vas sur un marché, tu donnes le tract à la personne entre les mains, et tu as une occasion de discuter. Ouais. Boiter, tu mets dans les boîtes, dans les boîtes aux lettres. Donc, les gamins, ils adorent faire ça. Et on le faisait d'ailleurs quand j'étais au sous des écoles de mon village, on le faisait ensemble pour... faire passer nos petits messages aux habitants. Donc voilà, on a fait ça 2-3 fois ensemble. Ils ont compris petit à petit. Je leur ai pas demandé leur avis parce qu'ils auraient dit non.
Ouais. Pourquoi tu penses qu'ils auraient dit non ?
Parce que ne pas voir leur maman 2-3 soirs par semaine, je pense que ils auraient dit non.
Ouais. Et quand tu passais, quand tu étais jeune, enfin tu es toujours jeune, hein, devant l'Assemblée nationale, est-ce qu'un jour tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Non, jamais. Jamais. Je me rappelle que même pendant la fac, des copains proches qui militaient politiquement, dans mon esprit, c'était pas pour moi non plus, parce que j'avais l'impression qu'il y avait déjà une forme de... que c'était eux l'élite, qu'ils étaient déjà dans le truc, parce que famille de notables, etc. Et je me suis dit, mais comme quoi, si je te le dis, c'est que ça a dû me traverser l'esprit, ne serait-ce que le militantisme politique.
Oui, c'est ce que je voulais te demander, si tu avais déjà été militante avant.
Non, et puis, pour cette raison, puis aussi pour le fait que je me reconnaissais pas non plus dans aucune des familles politiques à 100%.
Ouais.
Et le message de Macron, c'était de dire on prend le meilleur à droite, on prend le meilleur à gauche et on abolit d'ailleurs ces frontières qui sont probablement dépassées. Et ça fait tilt aussi dans l'engagement politique. Je me suis dit, il est dans le vrai. Mmh. C'était pas le premier à le dire, parce que Bayrou l'avait aussi dit avant. Mais
c'était un petit peu différent. C'était pas la même personnalité non plus.
C'était pas la même personnalité, mais le message que Bayrou avait véhiculé les précédentes présidentielles avait commencé à me faire dire il a raison. Le vrai, il est là.
D'accord.
Il est là.
Et dans ton entourage, parce qu'à l'époque, Emmanuel Macron, il sortait un peu de nulle part, en fait, au début. Comment ils ont réagi ?
Alors, je ne l'ai pas dit tout de suite, parce que, en fait, j'ai commencé à militer en janvier. J'ai postulé tout de suite après.
Ça se passe comment, d'ailleurs, pour postuler ?
En théorie, tu fais un clic internet, tu remplis un dossier. Okay. Le dossier, je l'ai préparé et pour le remplir, ça a pris 4-5 heures. C'était pas un tout petit dossier, c'était pas un clic internet. Mais bon, il faut pas s'arrêter juste au dossier internet. Il faut aussi s'immerger dans le militantisme et montrer sa personnalité aussi aux personnes qui seront peut-être à même, à un moment donné, de donner leur avis. Il y a une structure c'était En Marche à l'époque, il y avait une structure qui faisait que je m'étais fait connaître et que je faisais mon job de militante le samedi matin sur les marchés.
Et donc tes parents...
Et je ne l'ai pas tout de suite dit, je ne l'ai pas tout de suite dit. Je passais pas mal de samedis à tracter, mais je ne le disais pas. Mes parents n'étaient... On ne se croise pas tous les week-ends, donc c'est quelque chose que j'ai pu cacher pendant 2-3 mois sans souci.
Pourquoi tu l'as caché ?
Parce que ce n'était pas le choix politique de mes parents. Donc là, j'avais l'impression de faire une espèce de gros coming out. Et quand j'ai commencé... Oui, je l'ai fait en plusieurs fois parce que ça n'a pas été facile à avaler.
Pour eux ?
Ah non.
Ouais.
Non, pas tout de suite.
Et en plus, t'avais quel âge ? C'était il y a...
J'ai plus de 40 ans, donc j'étais majeure, vaccinée,
maman,
tout. Mais c'était pas le choix politique de mes parents qui ont été toujours très... qui ont jamais milité, mais qui ont toujours été très mobilisés, enfin intéressés par la question.
D'accord. Mm-hmm. Mais donc du coup, tu as quand même été bercée dans un milieu, enfin tes parents étaient très préoccupés ou en tout cas intéressés par la politique.
Ouais, on n'essayait pas trop en parler le week-end quand on était dans des grosses réunions familiales parce que ça partait en clash régulièrement. Qu'il y avait vraiment un espace de discussion, mais oui, on regardait pas les choses de façon très très distante. Mon père lisait beaucoup de livres, mais il lit toujours d'ailleurs, il adore lire des livres politiques.
D'accord.
Il y a pas de romans policiers, mais voilà.
Comme mon mari aussi, il adore, il ne lit aucun roman, mais c'est que les livres politiques.
C'est vrai.
Ouais, c'est une passion pour la politique aussi Ouais. Et donc là, donc tu à quel moment tu te dis peut-être que ça va marcher ? Est-ce que tu y crois déjà en remplissant ton dossier pendant 5 heures ?
Non. Non, je ne crois pas que je vais être investie. Il y a plusieurs étapes. Est-ce que je vais être investie ? Est-ce que Macron va être élu ? Est-ce que je vais être élue derrière ? Très sincèrement.
Investie, ça veut dire
Investie, ça veut dire que
le
mouvement politique me confie l'étiquette du mouvement, donc En Marche, pour les représenter, pour représenter le mouvement lors des élections.
Ouais.
Et c'est un peu comme pour les travaux de la maison. J'ai pas vu toutes les étapes d'un coup. Je regarde la première et puis après on verra.
C'est souvent ce que les gens me disent que j'interviewe, c'est on y va étape par étape. Et puis si on avait imaginé la finalité de ce qui s'est passé quelques années après, jamais ils y seraient allés.
Eh ben probablement que ça décourage. Ouais. C'est pareil pour avoir des enfants. Faut pas y penser trop, sinon. Non, mais si t'imagines ce que c'est que le bouleversement d'avoir des enfants, ça peut paralyser ou deux quand même.
Ouais.
Quoi.
Surtout, enfin, j'imagine qu'en plus quand t'as un des jumeaux, ça te c'est un tsunami.
Pas faux, mais voilà, il y a l'envie, bien sûr, de la perspective que ça ouvre, mais par contre, faut travailler à la première étape, sinon tu te paralyses. J'imagine que tu paralyses ou que tu trembles à imaginer. J'imagine la première fois que je donne un tract à un marché de ma vie, sur le marché de Vienne, un samedi matin, c'était en hiver, le bonnet, les gants, etc. J'ai les photos. J'imagine pas une seconde que je vais être députée à ce moment-là. Sinon, le tract, je le donne en tremblant. Parce que progressivement, il faut se préparer à porter l'habit. Et la bille, de toute façon, pour quiconque, je crois qu'il est trop large. Mmh. Et il va falloir l'occuper, il va falloir pousser et grandir très vite, parce qu'il y a quelques nuits blanches quand même au départ, de dire « Ouf, le suffrage universel vient de me mettre là, donc je suis députée, circonscription, 120 000 habitants. » Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'abstentions, mais il y a quand même à la fin des fins, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont mis ton nom dans l'urne. Ça met une saine pression, une très très saine pression. Et si tu y penses au moment où tu donnes ton premier tract, tu ne vas pas tracter ce matin-là. Ouais. Sinon, il faut se préparer petit à petit.
Ouais. Donc, tu es investi.
Ouais.
Emmanuel Macron est élu président.
Ouais.
Et donc là, arrivent les législatives.
Ouais.
Donc là, tu te dis, on y arrive. Il y a plus de...
Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un gros, gros stress. Hein. Franchement, faire campagne... Faire campagne, c'est quand même quelque chose de très stressant. Tu te confrontes à l'autre, tu fais tes premières réunions publiques.
T'avais déjà pris la parole en public?
Dans le cadre du travail, ouais, mais ça n'a jamais été mon grand talent. Ça a toujours été plutôt mon handicap. Enfin, je le considère comme un handicap, mais j'ai jamais aimé ça.
Ouais.
J'ai jamais aimé ça. D'ailleurs, je dis que dans mes premières réunions publiques, je finis par... quand je me décontracte un peu, je commence à faire cette blague de dire j'ai quitté Paris parce que je n'aimais pas Paris et je détestais parler en public dans tous mes métiers. Et regardez-moi, je vais retourner à Paris, je suis obligée de parler en public. Voilà. Donc, je prends sur moi ces deux choses que j'ai fui ou évité, ouais, toute ma carrière et qui me retombent dessus, mais... entre guillemets, pour la bonne cause.
Et c'est du coup, pourquoi c'est pas qu'est-ce qui te porte? C'est quoi la bonne cause pour toi?
Ce qui me porte, c'est ce que j'ai vu en cour d'assises, très sincèrement. Mmh. Dans le choix de mes sujets, dans le choix de ce que je travaille aujourd'hui au quotidien, j'y repense souvent, très souvent. Et ce qui m'a quand même... Le déclencheur, c'est que je me suis aussi dit... Parce que le frein aurait pu être les enfants. J'aurais pu me dire... Tu lâches tes enfants 3 soirs par semaine, 2, 3, 4, ça dépend des semaines. Puis bon, il n'y a pas que Paris, hein, y a aussi beaucoup de travail en circonscription qui fait qu'on est très peu présent. Pourquoi tu le fais? En fait, pour finir, je le fais pour eux.
Ouais.
Parce que je crois que ça a valeur d'exemple. Ça, pas besoin de faire de longs discours, il y a un moment donné, vaut mieux le faire, vaut mieux montrer que... Voilà, j'étais pas femme au foyer, que les femmes sont capables. Ça, c'est aussi pour mes nièces, parce que... J'ai des nièces à qui j'ai aussi envie que ça serve d'exemple. Les femmes sont autant capables que les bonhommes. Il faut juste s'enlever cette auto-censure qu'on a certaines tendances à... Enfin, la société est comme elle est, mais les femmes en plus s'auto-censurent, se dévalorisent souvent à côté des hommes.
On se met une grande pression.
Ouais, ouais. Tant qu'on n'est pas 3 fois mieux que les bonhommes, on ne se considère pas légitime, ce qui est un vrai travail culturel à faire, éducatif. Donc je me dis, ouais, je vais être le modèle. Et puis je me dis, je ne peux pas critiquer dans ma cuisine en écoutant France Inter depuis 20 ans toutes ces personnes politiques qui sont là, alors que là, moi, j'ai une chance d'y aller. Je ne pourrais plus jamais critiquer si j'y vais pas. Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi cohérent. Si on pense que les autres font mal, il faut aller faire soi-même. Mm-hmm. Et ça coûte, bien sûr, mais il faut... Voilà, ouais. C'est le prix à payer pour aussi espérer un peu de changement. Donc je me suis dit, voilà, tout ça se mélange dans ma tête à ce moment-là. Et je me dis, bon, pourquoi pas moi? Charlotte, pourquoi pas moi?
Et t'es passé au deuxième, enfin, t'as été élu au deuxième tour. Premier tour, donc t'es...
Ouais, je sors du premier tour en tête, ouais. Ce qui est une surprise parce que de par nos campagnes, le FN sort souvent en tête sur des législatives. Hein, c'était le cas des dernières. Donc là, le soir, t'appelles tous les bureaux de vote et tu te rends compte que quand ça va consolider comme ça. Parce que tu le sens venir. Hein, okay. Parce que le résultat, il tombe pas comme ça. Tu furtes autour de tous les bureaux de vote et tu vois Abadi, tu vois, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Et bon, vous êtes sûre?
ça fait voilà, et je suis en tête du premier tour et ma surprise du coup non, parce que je dis que le FN est souvent en tête, mais le fait que le FN soit numéro 2 et qu'on se retrouve tous les deux seuls au deuxième tour, je comprends à la sortie du premier tour qu'il n'y a plus beaucoup de chances pour que je ne sois pas élue. Ouais. je serai élue et là il y a Moi, je comprends à ce moment-là.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
Bah, faut préparer. Ouais. Alors, comment on va faire ? Parce que dans une semaine, si je suis élue, va falloir vite dégainer. Parce que j'ai envie d'être efficace tout de suite. Ouais. J'ai envie d'être sur le... Voilà, donc comment je vais recruter ? Comment je vais m'y prendre ? Comment je vais gérer ma vie ?
Ça, tu n'y avais pas pensé avant ?
Ma vie, si, parce que pendant la campagne, j'ai demandé à une amie à qui j'ai fait un CDD pendant un mois de gérer ma maison d'hôte.
D'accord.
Et donc, et je comprends que... Enfin, voilà. Donc ça, j'avais préparé pour la... Parce que la campagne, je n'ai pas touché terre.
Ouais.
Et ça, je l'avais préparé. Bon, il y a une semaine de nuit blanche encore, je crois.
Ouais. Et donc là, la chambre d'hôte, qu'est-ce qu'il la gère aujourd'hui ?
C'est toujours la même qu'on a cédéisée, qui s'occupe des petits déjeuners des clients, du ménage, des cookies.
Ça se fait, ils sont toujours aussi bons ?
Oui, ils sont pas mal.
Comment ils vivent les autres ? Parce que finalement, en général, quand tu viens dans une chambre d'hôte, tu t'attends à ce que ça soit les propriétaires qui te reçoivent.
Écoute, à ma grande déception, ils n'ont pas vu la différence. j'avais vraiment le souci de mes hôtes. Si j'avais dû arrêter ma maison d'hôte, j'y serais pas allée.
D'accord.
Parce que c'est quand tu montes un business qui en plus abrite ta famille et toute ta manière de vivre dépend de ce toit, de ces murs. Si j'ai plus de clients, je sors de cette maison parce qu'on n'a pas c'est déjà une part pas raisonnable, mais t'as pas le moyen ni de l'entretenir, ni de payer ton emprunt. J'y serais pas allée. Et donc pour moi, c'est important à un moment donné, je pense à mes clients et je me dis, il n'y a rien en plus d'équivalent dans le coin, donc ils vont être malheureux. Avec beaucoup de modestie.
Je peux pas leur faire ça.
Les cookies, quoi. mon amie que j'ai salariée s'en occupe très bien. Mon mari met beaucoup plus la main à la pâte, ouais. Beaucoup, beaucoup plus. Et il y a des clients, des fois, quand j'entends le son de leur voix dans le salon, je fais « c'est Roger, vite, vite, vite !» J'ai voir Roger.
ils le savent, tes clients, qui tu es ou pas ?
Les historiques, les habitués le savent, ouais.
Ouais. Ils ont accueilli la chose comment quand ils sont revenus ?
C'est pas moi qui ai dû leur annoncer, a priori. Ouais. Donc, je me rappelle pas de cette réaction-là. Mais certains me demandent... certainement un brin d'admiration et de sympathie, quels que soient d'ailleurs les partis politiques, ouais. À quels eux pourraient se retrouver.
Parce que finalement, donc maintenant le week-end, tu rentres chez toi, tu rentres de tes 3 jours à Paris, tu rentres chez toi, il y a du monde chez toi.
Alors maintenant, on a décidé de ne plus avoir de clients le week-end.
D'accord.
Il faut survivre.
Ouais, ce que j'allais dire, sinon, déjà je t'admire, mais là...
On en a très très peu le week-end, ouais. Le but du jeu c'est... On est sur un territoire où il y a beaucoup de professionnels qui viennent pour la semaine. Donc
d'accord.
Ça nous...
De se retrouver un peu tous les quatre.
Voilà, le week-end, exactement.
Ouais, quand même.
Tous les 5, parce qu'on a un au pair qui est obligatoire dans l'organisation.
D'accord, ouais. De toute façon, il faut changer. Et ton mari, donc lui, il a toujours le job pour lequel il avait été muté dans la région ?
Oui, il est toujours dans la même entreprise, avec des postes qui ont peut-être un peu évolué et un investissement syndical. Qui est arrivé il y a 4 ans et qui l'a reproduit cette année encore parce qu'il a été réélu.
Donc
il repart pour 4 ans. Il a un mandat de élu représentant du personnel.
Et maintenant, donc, tes enfants qui te voient partir 3 jours par semaine, comment ils le vivent ?
Eh bien, alors la première année a été un peu difficile.
Ouais.
La deuxième année, sur des roulettes. La troisième, ça a l'air de bien se passer. Je crois qu'ils ont oublié même les ingrats que j'ai pu, pendant 7 ans de leur vie, être à leur côté quotidien.
Ah mais c'est fou de voir l'ingratitude des enfants. Je me rappelle, on a vécu à Marseille, c'est moi qui emmenais les enfants à l'école tous les matins, tous les soirs, parce que mon mari était 5 jours par semaine à Paris, donc je gérais tout. Quand on est rentré à vivre à Paris, c'est moi qui allais, pour le coup je travaillais mais comme une sourde, donc je les voyais pas le matin.
Ils ont oublié.
Fait, ouais, de toute façon, toi, tu viens jamais nous emmener à l'école. T'es là, mais c'est une blague.
J'ai fait ça
pendant 4 ans et demi. Et pendant 5 ans, j'ai géré toute seule la maison et je vous ai géré toute seule. Et ouais, ils oublient.
Ils oublient. Bah, ils ont oublié. Je leur demande s'ils se souviennent. Alors, des fois, ils ont des petits souvenirs parce que là, maintenant, ils ont 11 ans. J'ai été élue, ils en avaient 8. Ils ont. ils ont un vague souvenir, mais c'est eux-mêmes, quand je leur disais « Au revoir, on se revoit bientôt, gros bisous, tu vas me manquer. » « Maman, c'est bon, 3 jours, on va survivre.
Ouais. » Ouais, de façon, le rapport au temps, c'est... Ouais.
Et ils survivent mieux que moi, j'ai l'impression.
Les coquins. Et j'ai lu que tu, à la base, t'espérais siéger à la commission des affaires sociales.
Oui, je savais. En fait, pour te dire, comme j'étais pas encore... j'étais pas encore assez projetée, je savais pas dans quelle commission ce que les sujets qui m'intéressaient étaient. J'avais imaginé que c'était dans la commission des affaires sociales. Et j'ai été élue, j'ai commencé à me plonger sur le site de l'Assemblée nationale pour comprendre ce que contenaient ces 8 commissions. J'ai commencé à comprendre vraiment le fonctionnement que j'ignorais en tant que citoyenne tout court. Et donc là, je fais, ah non, c'est la commission des lois que ça se passe pour moi. Le milieu carcéral, la justice.
Parce que moi, je ne suis pas très, très à l'affût de tout ça.
Personne ne l'est.
Parce que quand tu es députée, tu votes forcément des lois ou pas?
Oui, tu votes en commission et ensuite tu votes les lois en hémicycle. Mais le vrai travail du député, c'est fait en commission.
D'accord.
Donc, si tu es à la commission des affaires sociales, tu vas peut-être pouvoir gérer l'aspect santé. Je pense à mes détenus que j'ai vus pendant la cour d'assises. Tu vas peut-être pouvoir travailler sur la prise en charge des victimes d'un point de vue médical, la prise en charge des auteurs d'un point de vue médical, social. Mais si tu veux parler d'éducation, bah, faut aller à la commission de l'éducation. Ouais. Donc si tu veux parler de soutien scolaire, si tu veux parler de dédoublement de classe de CPCE1, d'ailleurs c'était vraiment la mesure qui a emporté mon adhésion sur le programme de Macron. Parce que ça répondait à ma problématique que j'avais identifiée, que les gamins déracinés dans les quartiers défavorisés avaient des difficultés scolaires dès l'âge de 6 ans. Ouais. Ben, le dédoublement, tout se passe bien, dans 20 ans, j'espère, faudra regarder les statistiques, mais voilà, ça peut aussi aider les gamins à mieux s'intégrer et pas forcément à dériver vers la délinquance tout de suite. Et en fait, si tu veux travailler sur le milieu carcéral, sur la justice, c'est la commission des lois.
D'accord.
Qui est très large d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que ça dans cette commission, mais tu ne peux pas être spécialiste de tout.
Non. Tu dois postuler pour être dans une commission ?
Oui, ça se fait en interne, c'est-à-dire que c'est chaque mouvement politique, enfin chaque groupe politique à l'Assemblée nationale qui va flécher ses candidats pour aller dans telle ou telle commission, sachant que chaque commission doit être représentative du reste de l'Assemblée nationale. Donc tu ne pourras pas avoir dans une commission une majorité qui ne serait pas la même que celle de l'hémicycle. Et chaque groupe a le droit à quelques places en fonction de son volume dans le reste de l'hémicycle.
Et quand tu es arrivée dans l'hémicycle, donc tu étais comment ?
Dans mes petits souliers. Ben ça, on est élu que depuis quelques jours. On est monté avec quelques collègues de l'Isère. D'humilité. Ouais, t'as tout le rouge, t'as tout le velours rouge qui est très impressionnant. Et puis, tu vois des noms assez illustres sur certains sièges de l'hémicycle et tu te dis, bon, ben, j'en fais partie maintenant, va falloir... Alors, tu ne seras jamais à la hauteur d'un Clémenceau, mais...
Pourquoi pas ?
Va falloir être digne de la fonction à minima, oui.
Ouais. Et vous avez été accueillis comment, les petits nouveaux ?
On nous a bien accueillis. Le personnel, ils sont absolument incroyables. Ils connaissent le nom de tous les députés. Ils te croisent dans un couloir à 1h du matin. Bonjour Madame Abadie. Ils savent. Ils ont une mémoire phénoménale des noms et des visages. Et puis ils sont aux petits soins dans le sens où faut que ça marche bien, quoi. Ouais. C'est pas une espèce de privilège, c'est juste faut que ça marche bien, donc on nous a accueillis avec beaucoup de bienveillance et quand même on a je vais pas dire le mot dépoussiéré parce que c'est trop présomptueux, mais on a coloré dans, que ce soit par beaucoup de visages colorés et beaucoup de vestes colorées, cet hémicycle, et on l'a un tout petit peu rajeuni aussi parce qu'on a largement redescendu la moyenne d'âge. Mais c'est pas qu'un effort de mon mouvement politique, parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes chez les Insoumis, beaucoup de jeunes chez les Républicains aussi.
D'accord.
Donc ça s'est largement rajeuni, oui.
Et est-ce que tu as dû suivre, entre guillemets, une formation ou comment t'as, enfin, comme t'étais loin de cet univers
Notre groupe politique a fait pas mal d'efforts en ce sens, en organisant des petits séminaires, des modules pour vite se familiariser avec la procédure législative, s'aider à s'organiser, travail en circonscription, le travail à Paris. Mais rien ne vaut l'expérience par soi-même. Ouais. Ça met un peu le pied à l'étrier, mais très sincèrement, le terrain, la réalité de la fonction nous met très rapidement à l'œuvre, ouais. Et on progresse tous les jours. Enfin, moi, j'espère progresser tous les jours et je n'arrête pas d'essayer d'améliorer certaines choses, soit dans le fonctionnement de l'équipe, soit moi-même dans ma manière d'être.
Et c'est quoi tes plus grandes réjouissances depuis que tu es députée ? En dehors d'avoir été élue.
Oui, alors j'aimais beaucoup une phrase d'Edouard Philippe qui disait « On n'a pas gagné. On aura gagné dans 5 ans si ouais. on a réussi à, il disait, réparer la France. » Et j'avais ce sentiment aussi que de toute façon, le gros restait à faire parce que l'élection, pour finir, c'était juste le permis donné de travailler.
C'était le feu vert dans le mi-borne.
Voilà. Et il y a des grosses satisfactions. Enfin, il y a des grosses satisfactions. J'ai des satisfactions sur le projet de loi justice, quand on travaille avec un collègue sur les majeurs protégés, ces personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, j'ai la grande satisfaction de défendre moi-même l'amendement de mon groupe qui permet aux majeurs protégés de se marier sans passer devant le juge. Toi, moi, quand on a voulu se marier, on n'a pas demandé l'autorisation à personne et on nous a laissé faire nos choix.
Ouais.
Un majeur protégé, il est amoureux aussi, il a le droit de faire ses choix. Mmh. Et du moment qu'on arrive à protéger son patrimoine, parce que c'est l'objectif d'une tutelle, s'il a envie de se marier avec quelqu'un qui le rend heureux, même s'il divorce au bout de 3 ans, 10 ans, 15 ans, il fait ses choix, il fait ses erreurs. Nous, on a le droit à l'erreur en termes de mariage. Pourquoi un majeur protégé n'aurait pas le droit à l'erreur ? Donc, l'infantiliser au point de le faire passer devant le juge pour que le juge autorise un mariage parce qu'on aurait choisi le bon régime matrimonial est assez humiliant pour eux. Et on a fait ce genre de choses de la même manière qu'on leur a rendu le droit de vote parce qu'il était supprimé systématiquement par les juges.
Okay.
Alors que j'imagine que quelqu'un qui a voté toute sa vie, voire même qui a été élu aux plus hautes fonctions de l'État, qui n'était plus forcément en pleine capacité de savoir pour qui voter, a quand même le droit de voter, parce qu'il a quand même le droit d'avoir des préférences. Mm-hmm. C'est important pour lui, c'est assez humiliant
de retirer
le droit de vote. Ils sont citoyens français, ouais. Et leur retirer le droit de vote, c'était leur enlever leur sentiment de citoyenneté. Et on a rendu ça aux majeurs protégés. Je dis on parce que c'est pas une satisfaction personnelle, mais j'ai eu la chance d'aller le défendre moi-même, donc j'étais assez privilégiée. Et en général, les satisfactions, c'est quand tu arrives effectivement à concrétiser des choses.
Ouais. Donc là, tu as rejoint maintenant l'exécutif de En Marche.
Ouais.
En plus de.
Ouais, ouais. Bah écoute, oui. Oui.
Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait naître cette idée où on est venu te chercher ?
On est venu me chercher parce que je n'ai pas postulé. Je postule très rarement à des fonctions. Puis, de la même manière que je ne me présentais pas à mon concours d'avocat, ouais. J'imagine jamais pouvoir être digne d'une fonction supérieure déjà à celle que j'occupe. Et on est venu me chercher et je me suis dit que ça avait du sens parce que j'étais pas une professionnelle de la politique et qu'ils avaient besoin effectivement dans ce bureau exécutif de personnes qui avaient ce regard-là. Moi, j'ai pas connu le PS avant, j'ai pas connu les LR avant, je sais pas à quoi ça ressemblait la vie de ces mouvements politiques avant. Par contre, j'ai une idée assez précise de ce qu'un citoyen qui s'occupe que très vaguement de la politique peut ressentir de nos actions.
Ouais. Et donc, c'est quoi ton rôle au sein du parti ?
Alors, on a tous des délégations, soit thématiques, soit fonctionnelles. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de ce qui tourne autour de la justice et de la sécurité. Donc, typiquement, quand Stanislas Guérini, notre délégué général, chercher quelqu'un pour mener une mission sur le communautarisme. Il a pensé à moi et j'ai pu travailler là-dessus pour le mouvement.
D'accord.
Donc c'est en plus des fonctions de député, mais ça nourrit aussi énormément.
Ouais. Et j'ai vu aussi que tu t'aidais les candidats du parti à, pour les municipales, que tu les coachais.
Ouais, bah sur ce sujet-là, tu vois, ouais. Sur le sujet du communautarisme, en fait, il y a un séminaire qui s'est déroulé, il y en a régulièrement, où on réunit les cadres, c'est-à-dire tous nos référents départementaux ou ceux qui ont un rôle au niveau du département, tous les candidats ou leurs directeurs de campagne. Et il y avait une séquence de 3-4 heures pour leur expliquer, leur apporter des éléments sur qu'est-ce que le progressisme à l'échelle municipale, comment on voit un maire La République En Marche dans ses actions au quotidien. Et il y a eu des focus environnementaux, il y a eu des focus sur différents sujets. Et moi, j'étais sur le focus communautarisme qui, malheureusement, n'est pas toujours perçu... il y a beaucoup de déni encore dans notre société sur la montée du communautarisme. Mais pour autant, il y a des endroits où il n'y a pas de soucis, donc on ne va pas aller semer le trouble là où il n'y en a pas. Mais il y a des endroits où il y a la question de savoir comment on fait pour ne pas le laisser monter. Donc j'ai pu effectivement aider les candidats à se faire sans leur donner de... Comment dire ? Ce n'est pas des injonctions, mais c'est plutôt des guides ou des idées d'action.
D'accord. Là, ton mandat, il se finit dans un an et demi.
Deux ans et demi, pardon. non, parce que là, ça fait court.
Ouais, deux ans et demi.
Parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Ouais. on vient de passer la moitié. On est un peu plus de la moitié.
Et tu te dis qu'après, tu as envie de te représenter. Tu te dis que tu ne sais pas comment tu vis la chose.
Depuis le début, au tout début du mandat, je m'étais dit il va falloir réunir deux conditions pour y retourner. La première, c'est que la famille survive.
Ouais.
Si elle a survécu et qu'elle peut encore survivre, je me poserai la question. La deuxième, c'est avoir été utile. Parce que faire tout ça et ne pas sentir l'utilité de son action, qu'elle soit collective. Tu vois, la baisse du chômage, pour nous, c'est une réussite collective. C'est pas la mienne, parce que j'ai pas du tout travaillé dans la commission des affaires économiques qui a travaillé aux ordonnances sur le droit du travail et l'apprentissage. Pour autant, c'est une réussite collective. Mais si on n'a pas réussi à être utile, ni collectivement, ni individuellement, franchement, autant laisser la place à quelqu'un d'autre.
Ouais.
Petit à petit, c'est vrai que ce sentiment d'avoir besoin d'être utile, j'y pense plus parce que maintenant je le sens. Mais au tout début, quand t'arrives et que tu connais pas comment marche la maison, tu sais pas quel est le rôle du député au quotidien, tu te dis bon, il va falloir être utile parce que sinon ça servira à rien. Et quand tu commences à comprendre comment ça marche, tu gagnes en utilité. Enfin, moi j'ai l'impression de gagner en utilité. Alors après, il y aura toujours des détracteurs pour critiquer, tant mieux. Des gens pour ne pas partager nos idées, tant mieux, c'est le débat démocratique. Moi, j'ai l'impression d'être utile quand je travaille sur les violences conjugales, que je fais passer le message le plus largement possible auprès de ma circonscription, département, région. On a fait beaucoup de travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Quand tu rencontres les associations, qu'elles te font remonter leurs bonnes pratiques et que tu batailles pour qu'il y ait une des bonnes pratiques de ces associations qui soit dans le programme de Marlène Schiappa et du Premier ministre quand ils sortent du Grenelle, tu dis « Ouh !» Pour moi, alors c'est vrai que c'est pas encore concret, mais ça fait avancer les choses. Et ça, c'est notamment s'occuper des auteurs de violences conjugales, parce qu'aujourd'hui, la répression est indispensable, mais à côté de la répression, si tu leur fais faire que de la prison, ils ressortent aussi mauvais qu'ils en sont entrés. Donc la prise en charge des auteurs sur des aspects sociaux, médicaux, éducatifs est importante. Et quand le Premier ministre l'annonce dans son plan d'action en disant on va faire deux centres d'hébergement avec prise en charge des auteurs dans chaque région, et que c'est l'idée que tu as travaillé avec les associations, tu dis bon, là c'est utile. Maintenant, il faut qu'il voit le jour, c'est sûr. Si ça reste dans un livret, ça ne sert à rien, mais voilà. Un peu d'utilité.
Donc pourquoi pas
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. On en reparle dans deux ans et demi. Aujourd'hui, si la petite Caroline de 6 ans te voit, qu'est-ce que tu penses qu'elle penserait?
Alors la petite Caroline était très critique à l'époque et elle l'est toujours. Donc, elle se dirait que c'était pas mal à 40 ans de se dire qu'il y avait encore plein de possibilités Et je crois qu'elle me dira, que ce soit 40, je sais plus quel âge j'ai, mais dans 2 ans et demi, ça fera, mince, je suis vraiment nulle à ça, ça fera peut-être 46 ou 47. Elle se dira à 46 ou à 51, il y a encore d'autres choses à faire.
Ouais.
Donc, faut pas s'arrêter.
Tu te rêves une autre vie après.
Ah, mais il faudra.
Et, oui.
Je suis de celles qui pensent que 2 ou 3 mandats, c'est largement suffisant.
Ouais.
On voulait fixer une limite à 3, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas réussi à passer cette réforme. Mais j'étais vraiment convaincue que 3 mandats, c'était largement suffisant. 2, c'est pour moi, personnellement, ce serait déjà suffisant pour passer à autre chose. Et effectivement, il y aura un après parce que la maison d'hôte tourne. Et j'ai plein de nouvelles envies.
Dont on peut parler ou...
Non, parce que j'en ai beaucoup trop.
D'accord.
Très sincèrement, on a la possibilité avec cette fonction de député de rencontrer énormément de personnes passionnantes.
Ouais.
Un peu comme toi aussi, j'imagine que les rencontres nourrissent énormément. Ouais. Et à chaque fois que je vois un directeur d'association, directrice d'association qui fait ça, une entreprise qui fait ça, je me dis « Ah, ça, j'aimerais bien après pouvoir aider, m'investir dans telle ou telle piste. »
Ouais, il faudra faire du tri.
Il va falloir faire du tri, ouais.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ?
Ah. Professionnellement ou personnellement ?
Tout court. Ça peut être les deux. Enfin, tu peux traiter la question en 2 temps si tu veux.
Ouais. J'ai pas encore de fierté, fierté politique. Je suis fière, moi, d'avoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ce qui est de nos accomplissements, on verra à la fin du mandat, il en faudra. On n'a pas atteint tous nos objectifs. On voit bien que la société est toujours dans une forme de défiance vis-à-vis de l'autorité. On a fait baisser le chômage, ils s'en fichent. Ça râle encore. On a fait baisser les impôts, ça ne va pas. L'écologie, voilà. Il y a encore tous ces sujets. Donc, je n'ai pas encore un sentiment de fierté totale sur nos accomplissements. Sur notre manière de faire ensemble, on est quand même pas mauvais. On fait des couacs, on n'est pas toujours bon, on fait des erreurs de bleu. Certains disent godillot, très bien. Bon, on peut passer sur toutes les critiques, n'empêche qu'on a un collectif soudé qui évite les frondes et la paralysie que d'autres ont vécu juste avant nous. Donc ça, il y a une fierté d'être parmi ceux qui tiennent la cohésion. Mais on est 300 à tenir la cohésion, mais on la tient.
Ouais.
Et faut être tous ensemble là-dedans. Et j'ai cet état d'esprit très collectif qui me donne l'impression de pouvoir participer à ça. Mais après, personnellement, mes progrès. J'ai progressé. J'ai plus peur devant un micro. je le regarde, il est tout orange, mais je n'ai pas peur de toi. La parole en public, ce n'est pas encore mon fort, mais... J'ai passé plein d'étapes personnelles. La confiance en moi qui m'a fait défaut à un moment donné dans mes choix, je la construis un peu au quotidien et elle redescend vite. Hein. C'est une bataille de chaque instant pour être à la hauteur de la fonction. Et puis après, personnellement, les barres de céréales que j'ai fait à mes gosses la semaine dernière, c'est une tuerie. Je suis hyper fière. Ils les font goûter à tous leurs copains dans les cours de récréation. Tous les copains, tout ça, trouvent ça hyper bon. Et en plus, c'est fait maison. Ah. Et mes gosses sont fiers de ça. Donc je me dis, bon, bah, c'est déjà ça de prix.
Peut-être que tu seras cuisinière après.
Franchement, reprendre la boulangerie du village qui a fermé l'année dernière, pourquoi pas.
Ouais. Bah, ce serait génial, ouais. C'est... Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai bugué. une petite question qui me taraudait tout à l'heure. Tes parents aujourd'hui, donc à la base, ils n'étaient pas du tout pro Emmanuel Macron. Aujourd'hui,
ils ont voté ce qu'ils avaient envie de voter, ils me l'ont dit. Ils n'étaient pas obligés de me le dire, mais ils l'ont bien dit, donc j'ai bien compris. Ils ont avalé une espèce de pilule. Je crois que c'est passé, hein, parce que je crois que j'ai pas plus grand fan que mon père maintenant.
Ouais.
J'ai un grand fan on échange beaucoup sur quand je fais de la route. avec mon kit main libre, j'appelle ma mère, parce que pas trop l'occasion de se voir. C'est un regret aussi de ne pas voir mes parents.
Parce que tu habites à côté de chez eux.
On est à moins d'une heure, mais je les vois très très peu. Je vois très très peu ma famille. Il y a des oncles et tantes que je n'ai pas vus depuis que j'ai été élue. Ça, c'est un vrai regret qu'il faut que j'arrive à réparer au quotidien, parce qu'il ne faut pas attendre la fin du mandat.
Ouais.
Mais ça m'embêterait, de quand tu as des oncles un peu vieillissants, de rater des moments avec eux, ou mes parents bien sûr. Ils sont en pleine forme, donc tout va bien. Mais moi, j'ai mon plus grand fan. On discute beaucoup. On discute beaucoup. On commente l'actualité. Mmh. Hein, ils la reçoivent comme tous les citoyens, ouais, par la radio, la télé. Et on discute. Et je leur donne un éclairage de l'intérieur. Et je crois qu'ils aiment bien l'éclairage de l'intérieur.
Bah ouais, tout le monde aime avoir les coulisses. Il n'y a personne dans ton entourage qui t'a fait des reproches en mode « de toute façon, on ne voit plus ».
Non, je crois que tout le monde est très très compréhensif.
Ouais.
Je crois que tout le monde est très compréhensif.
Ça, c'est chouette.
Ouais. Des gens qu'on voit moins, hein, malheureusement, mais ouais. Les gens d'ailleurs pensent ne plus pouvoir m'appeler parce qu'ils ont l'impression que je n'aurai pas le temps de répondre. Mais un texto, je peux le lire. Je peux le lire n'importe quand.
Ouais, c'est le limite trop de l'autoprotection.
Ouais.
Et est-ce que pour la prise de parole en public, tu t'es fait coacher ou...
Oui.
Ouais.
Ouais. Bah, au bout de... Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais au bout de... Bah, c'était pas la priorité des priorités, mais au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça m'handicapait... Parce qu'en fait, pourquoi je veux parler en public ? C'est pas parce que j'aime ça ou pas parce que je veux pas briller de mille feux. C'est juste qu'à un moment donné, si le député prend pas la parole, il défend pas sa circonscription, il défend pas la nation, il défend pas les gens qui l'ont élu. Ou pas d'ailleurs, il défend tout le monde. Donc il faut à un moment donné se faire violence, parce que l'objectif de la parole en public, dans l'hémicycle, en commission, dans une réunion à la préfecture, c'est de défendre le point de vue, de défendre un point de vue, celui pour lequel j'ai été élue. Donc j'y suis allée, allée faire du coaching, deux, trois séances pour déverrouiller des trucs, et puis après on progresse en pratiquant.
Oui, c'est sûr. Mmh. Et pour la confiance en toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui n'ont pas confiance en elles
Non, si quelqu'un pouvait me donner un conseil encore à moi, fonce, tu réfléchiras après. Je pense que c'est peut-être le bon précepte. C'est, faut pas réfléchir à si on est à la hauteur. Faut pas réfléchir à, faut y aller quoi. De toute façon, on est tous à la hauteur de nos ambitions si on se donne les moyens de les atteindre. Donc il faut foncer et puis faut pas trop penser à ça tout de suite.
Ouais, sinon trop de pression. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te rencontrent et qui te disent « mais t'as trop de chance ».
J'ai dit une fois à quelqu'un « t'as trop de chance », il y a très longtemps, une amie, et je me suis retrouvée dans mes 22 assez rapidement. C'est une amie qui organisait un tour d'Afrique en voiture avec 2-3 copains de fac, alors que nous, on cherchait tous notre stage et notre boulot. Eux, ils faisaient ce petit tour d'Afrique avec une voiture qu'ils avaient aménagée pour dormir dedans. Enfin, le truc faisait rêver. Et je lui dis, t'as trop de chance. Et elle me dit, non, j'ai pas trop de chance. Je me suis créé cette opportunité-là. Je fais des sacrifices pour me la créer. Et j'ai pas trop de chance. Et je me rappelle cette réponse de cette amie. Et du coup, je le dis plus jamais aux gens, t'as trop de chance. Parce qu'en fait, les gens font leur choix. Font leur choix et on me le dit pas d'ailleurs, t'as trop de chance.
Ouais.
On me le dit pas. Les gens sont assez humains et voient très bien, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, qu'il y a un prix à payer pour ça. Voilà.
Et même quand t'avais ta chambre d'hôte, parce qu'on peut imaginer plus quand t'es député, mais quand t'avais ta vie entre guillemets tranquille dans ta chambre d'hôte.
Les gens étaient fans du projet. Mais je pense que je milite encore pour, faut pas dire trop de chance. Ils se sont rendus compte, et je crois d'ailleurs qu'on a semé la graine dans certains endroits, que c'est faisable.
Ouais.
C'est pas de la...
On est d'accord. Ouais.
La chance, ça serait dire, du coup, tout le monde n'en a pas, donc tout le monde ne pourra pas réaliser un rêve.
Ouais.
Alors que si tu le désacralises, c'est pas de la magie, c'est du travail, de l'envie.
Une prise de risque.
Bien sûr qu'à certains moments, il y a des circonstances qui vont être plus favorables que d'autres et qui vont faire que le truc, ce qu'ils appellent l'alignement des planètes, le truc va se faire. Mais c'est pas parce qu'il se fait pas qu'il se fera pas. Ouais. Je me rappelle plus cette citation qui disait que c'était impossible jusqu'à ce que ça se fasse. Y a rien d'impossible puisque il suffit de le faire. Ouais. Donc voilà, monter une chambre d'hôte, c'est accessible à tout le monde. J'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Mmh. Être élu député, j'avoue qu'il y a des circonstances qui font que là, on est allé chercher des citoyens dans leur vie civile pour s'investir en politique. J'ai bien le sentiment que ça se refera pas tous les quatre matins, mais là, on est à la veille de municipale. Je ne sais pas quand est-ce que tu diffuses, mais la veille de municipal, franchement, moi j'ai appelé des gens pour qu'ils aillent sur les listes, parce que dans des villages, on peut toujours s'impliquer en politique à tout niveau, et dans des villages, dans des villes, il y a des opportunités d'aller être utile, d'aller être utile aux autres.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais donner ?
Ah, la colle. Si je reprends mes regrets, c'est quand même... J'ai abandonné une fois un rêve que j'aurais pas dû.
D'être avocat ?
Ouais. Alors après, avocat, je peux toujours, mais juge, je peux plus.
Mais, pourquoi tu peux plus ?
Il y a
un âge
limite.
D'accord.
Ouais. J'avais regardé ça en sortant de la cour d'assises.
Peut-être se faire passer une loi pour...
Oui, pourquoi limiter, effectivement. Ouais. Mais j'ai abandonné à un moment donné et j'aurais pas dû, même si j'ai réussi à toujours... parce que je suis pas faite pour être malheureuse, donc j'ai toujours réussi à trouver de l'épanouissement dans ce que je faisais et à me créer des opportunités et à arriver... quelque chose de plutôt épanouissant, j'aurais pas dû.
Ouais.
Donc pourquoi j'ai abandonné à ce moment-là ?
Ouais.
Qui, maman, tu ne m'as pas donné le coup de pied à ce moment-là. Non, mais il y a là, je méritais un énorme coup de pied.
Ouais.
Je l'aurais peut-être pas entendu, mais j'en méritais un.
Ouais. Ouais, c'est souvent ce que les personnes disent. J'ai interviewé une personne hier qui rêvait d'être médecin. Et en fait, elle n'était pas bonne en physique en troisième. Et en fait, personne ne lui a dit, prends des cours particuliers, enfin on va t'aider, ton rêve c'est d'être médecin et t'es pas bon en physique, c'est entre guillemets, c'est que la physique. Et bon, en fait, moi finalement, elle a pas, bon, aujourd'hui elle a réussi à trouver un métier où elle travaille dans le médical, mais elle est passée quand même par la pub au milieu de tout ça, le truc qui n'a rien à voir. Et en fait, tu te dis, ouais, pourquoi en troisième, tu pouvais en fait le faire. J'ai interviewé une autre personne la semaine dernière qui me disait, lui, pour le coup, son rêve, c'était d'être astronaute. Sauf que en troisième, en fait, on lui a dit qu'il n'avait pas la vue pour pouvoir être astronaute. Donc là, bon, pour le coup, il n'y a pas le choix. On ne va pas lui poser des nouveaux yeux. Enfin, c'est pas possible. Mais en fait, il faut savoir dire, tu crois pas en toi aujourd'hui, mais vas-y, on tente.
Oui, oui. La force du travail, on peut récupérer plein de choses.
C'est ça. Quand on veut, on peut. Enfin... dans la mesure du possible, évidemment. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu voudrais dire merci à quelqu'un et pourquoi ?
À mon mari, j'allais dire à mon robot qui me sert de mari, à mon mari qui se pose pas toutes ces questions qu'on est en train de se poser là. Je sais pas comment il est fait dans sa tête, j'essaie de découvrir le mystère depuis 15 ans. Un peu plus. Je ne sais pas comment il est fait dans sa tête, mais il se pose aucune de ces questions-là. Et c'est assez une bénédiction dans la vie de quelqu'un qui s'en pose beaucoup comme moi. Parce qu'il il avance. Il avance. Il ne se pose pas de questions. Il avance quand il a envie, quand il veut. Alors, c'est une montagne de travail et d'organisation, mais il ne se pose pas aucune de ces questions-là. Et pour moi, je trouve ça assez miraculeux. Et effectivement, la chambre d'hôte, jamais je passe le pas sans lui. Député, jamais je passe le pas sans lui. Peut-être que le prochain, je vais essayer de grandir et de faire toute seule, mais j'ai pas besoin de son aval, mais quand lui me dit mais il y a qu'à faire ça, ça, vas-y, on y va quoi.
C'est un peu la lumière au bout du sur le chemin qui te permet de te guider.
C'est la lumière à côté que je vois pas tous les jours, mais que je sais qu'elle brille. Ouais. Elle est dans l'autre pièce, elle est dans l'autre ville. Ouais. Mais oui, après il tient là.
Ah, parce que du coup c'est lui qui gère les enfants.
Il tient la maison plutôt pas mal. Hein.
Mmh. Parce qu'il s'est retrouvé avec une femme qui était là 7 jours par.
Il sait pas faire les barres de céréales.
Ah.
Pardon,
mais t'en fais le week-end et tu lui laisses pour la semaine.
Oui, j'en fais. Mais non, alors il se déplace beaucoup aussi du fait de son mandat. Mais lui, il n'oublie jamais rien. C'est un mec, il n'a pas besoin de to-do list. Il n'a pas besoin de liste. C'est dans sa tête, il l'oublie jamais rien.
C'est rare, un homme qui n'oublie rien.
J'ai dû le choper une fois, oublier un truc, tu vois, en 15 ans. J'étais là, ouais, il est humain, il a oublié un truc, mais ouais.
Ouais, c'est fort. Là, j'ai une petite pensée pour mon mari que j'aime très fort, mais le nombre de fois où j'ai dit ça, j'ai complètement oublié.
Oui, après, il est pas parfait, hein, mais il a... Ouais, je sais pas comment il fait dans sa tête.
Ouais. Mais il est là.
Il est là.
Ouais. Merci beaucoup, Caroline.
Avec grand plaisir, c'était sympa.
Merci.
Merci.
Cet épisode a été enregistré le 5 février, mais j'ai attendu un petit peu avant de le diffuser. Pourquoi ? Car le 5 mars, c'est l'anniversaire de mon mari, sans qui le projet n'aurait sûrement jamais vu le jour. Je n'aurais jamais imaginé être reçue à l'Assemblée nationale pour interviewer une députée quelques mois avant. Et aussi, car vous l'aurez compris dans l'épisode, mon mari est un grand fan de politique. J'ai également attendu le 5 mars, car comme je vous le disais en introduction, dans 3 jours, ce sera la journée de la femme. Et quand on entend le parcours de Caroline, quel hommage aux femmes! Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute favorites et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître et aider encore plus de personnes en leur donnant la force d'écouter leur petite voix. Je vous dis à jeudi prochain pour la deuxième femme mise à l'honneur pour cette semaine en l'honneur des femmes.